À Rencontre spirituelle aujourd'hui, une émission spéciale qui est au titre un peu difficile. Jésus a-t-il vraiment voulu une église hiérarchique avec un pape, des évêques, etc. C'est une question qui s'est posée depuis bien longtemps, qui a suscité bien des schismes, bien des séparations, bien des difficultés. Et d'ailleurs, je suis sûr que vous avez souvent entendu cette phrase, surtout depuis quelques années, hein. Or, ben moi, je crois au Christ, mais je crois plus à l'Église. Et combien de fois a-t-on entendu ça? C'est une réflexion qu'on entend un peu partout, hein. Mais je crois qu'il nous faut l'écouter avec beaucoup d'humilité. Oui, beaucoup d'humilité quand on entend ça. Parce que cette phrase vient la plupart du temps de personnes qui ont été profondément déçues. Déçues par, je m'excuse de le dire, mais par l'attitude de certains gens d'église à travers l'histoire ou même aujourd'hui. Les gens d'église, comme on dit, hein, dont souvent des réactions, parfois des scandales, ou bien, en fait, des omissions, disons, puis des compromissions, ont vraiment scandalisé ces gens-là. Et ces gens-là, en ont leur conclu que l'Église était trop humaine pour être comme elle le prétend. Et c'est très beau, les titres que l'Église a depuis le tout début. Elle est l'épouse bien-aimée du Sauveur. Mais les gens disent, ça n'a pas de sens maintenant, c'est fini ce temps-là. Elle est le corps du Christ, et on dira, bon, le peuple de Dieu, elle est le peuple de Dieu, l'Église. Ce sont les titres. Elle est l'inauguration sur la terre du royaume des cieux. C'est une expression très ancienne, très classique, qui veut plus dire grand-chose aujourd'hui, mais elle est l'inauguration sur la terre de cette vérité, à savoir que Dieu est notre Père, que nous sommes ses enfants, que nous sommes les fils de Dieu d'une certaine façon. Alors, sans être forcément déçu par l'Église, il y a beaucoup d'autres qui se demandent si elle est née d'une volonté expresse de Jésus. Est-ce que c'est Jésus qui a voulu l'Église? Ils reprennent plus ou moins la thèse qui a été énoncée en 1902 dans un ouvrage retentissant à l'époque qui s'appelait « L'Évangile et l'Église ». Alfred Loisy, c'était un prêtre qui était ordonné en 1879, vous voyez, un peu plus de 20 ans avant l'apparition de son livre, et qui a été excommunié au début du siècle pour ses idées modernistes. Il faut dire qu'il n'y va pas de main morte dans son livre « L'Évangile et l'Église ». Alfred Loisy, vous pouvez lire, si vous trouvez ça en bibliothèque, je ne dis pas dans une librairie, là, je dis dans une bibliothèque, un ouvrage, moi je l'ai paru en 1932, c'était écrit par le père Lagrange, dont je vous ai déjà parlé, un dominicain éminent, et le titre de son livre c'est « Monsieur Loisy et le modernisme » aux éditions du Cerf en 1932, c'est pas d'aujourd'hui. C'est une assez bonne réponse, respectueuse et intelligente à l'égard d'Alfred Loisy. Donc, qu'est-ce qu'il disait Alfred Loisy? Il disait, d'une façon assez sarcastique, c'était un homme très sarcastique, « Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue. » Selon Loisy, Jésus de Nazareth s'est contenté d'inviter les hommes à la pénitence en vue d'une catastrophe épouvantable qu'il prévoyait. Imminente. Il ne s'agissait pas pour Jésus, dit-il, de fonder une religion nouvelle, puisqu'il pensait que le monde était sur le point de basculer dans le royaume des cieux. Comme la fin du monde ne semblait pas vouloir se produire, ses disciples, dit-il, se sont organisés en église. Ils se sont attribués un pouvoir que Jésus ne leur avait absolument pas donné selon lui. C'est devenu une pensée répandue, c'est ce que pensent ces gens-là aujourd'hui. Ils pensent la même chose que l'ex-prêtre Alfred Loisy. Et si Jésus a voulu fonder une église, ce que beaucoup de chrétiens reconnaissent, est-ce qu'il a vraiment voulu Cette étrange distinction qu'on peut appeler entre clair et laïque, pour eux, c'est étrange. Est-ce que c'est pas contraire à l'esprit d'égalité que Jésus est venu faire régner sur la terre, disent-ils? L'Église, est-ce qu'elle n'a pas été inventée par des hommes épris de pouvoir? Et puis, l'existence d'une hiérarchie dans l'Église, les évêques, puis le pape, est-ce que c'est pas la simple expression du réflexe clérical, oui, clérical, qu'on retrouve dans presque toutes les religions à travers le monde? Et des prêtres s'attribuent le pouvoir d'être des intermédiaires privilégiés entre les hommes et la divinité. Puis on sait, disent-ils, à quel excès le cléricalisme peut entraîner. Je suis d'accord pour ce qui est du cléricalisme. Ça m'arrive moi-même parfois d'en souffrir encore récemment. Bah, en outre, même si Jésus a vraiment voulu une église hiérarchique, le pouvoir que s'attribue depuis les origines l'évêque de Rome, le pape, est-ce que c'est pas exagéré? C'est ce que pensent bien des gens. On a vu des ouvrages signés Jean-Paul Lefebvre, un peu dans ce sens-là, il n'y a pas longtemps. Donc voilà trois questions fondamentales qu'il faut avoir le courage d'aborder puis de résoudre par un recours à l'histoire. Et je m'inspire pour ça de l'abbé Pierre Descouvemont dans son ouvrage sur les difficultés de la foi catholique, publié aux éditions du Cerf. Il s'agit en effet de savoir si oui ou non Jésus a voulu les structures de l'Église telles qu'elles existent depuis près de 20 siècles. On ne peut pas se contenter donc de répondre en disant que tout compte fait, bon, ben, la structure hiérarchique de l'Église lui a permis de durer, c'est excellent, puis de produire de bons fruits à travers les âges, donc c'est une bonne chose. Je voudrais montrer qu'elle existe, moi, en vertu d'une volonté expresse de Jésus. Alors j'en vois qui vont me ranger parmi les intégristes, mais je crois qu'on peut, en lisant comme il faut les textes, arriver à cette conclusion. Et je tiens à spécifier que pour être fidèle au Christ, l'Église doit se laisser sans cesse rajeunir par l'Esprit-Saint qui l'habite. L'Esprit-Saint l'habite, l'Église, ça a été dit, hein? C'est dans les textes. Et qu'elle doit pratiquer l'aggiornamento, comme dit Jean 23, là, le renouvellement, la mise à jour. Et il ne s'agit pas seulement de ravaler la façade, comme on dit, le nettoyer la façade de l'Église, ou de mettre à jour des petits règlements, ou même des grands règlements, puis de mettre à jour aussi son vocabulaire, changer le mot messe par eucharistie, et etc., etc. Non. Il s'agit d'une œuvre intérieure de conversion qui n'est jamais achevée. J'aime bien ce texte de Charles Journet. Dans son ouvrage que j'ai ici devant moi, La primauté de Pierre, dans la perspective protestante et dans la perspective catholique, c'est dans la collection Sagesse et Culture, paru chez Alsacia il y a bien, bien longtemps. Ça se trouve plus sur le marché, ça. Il faut trouver ça dans des bibliothèques, je le répète, allez pas dans des librairies pour trouver ça. Il dit, le Christ promet à ses disciples que son Église ne mourra pas, qu'elle sera inébranlable dans la suite des temps, du fait qu'il la fonde sur un roc solide, Simon, qui devient Pierre, change de nom, vous vous souvenez. Hein? Cette promesse n'a de sens, écoutez bien, que si ce fondement doit durer, lui aussi, à travers les siècles. Ce qui suppose évidemment que Pierre, Saint-Pierre, aura des successeurs tout au long de l'histoire. Autrement, c'est une promesse qui n'a pas de sens. Et Charles Journet dit bien, il est devenu le cardinal Charles Journet, c'était un dominicain, le fondement doit durer autant que l'édifice. À quoi ça sert de mettre une pierre si on ne construit pas un édifice dessus? La notion de durée et de succession n'est pas mentionnée dans les textes explicitement, dit Charles Journet, mais implicitement et en toute vérité. C'est dans son livre, je le rappelle, Primauté de Pierre, paru chez Alsacia il y a très longtemps. On peut se poser trois questions. Donc, Jésus a-t-il voulu une église visible? Bon. Jésus a-t-il voulu une église hiérarchique? Puis enfin, Jésus a-t-il voulu une église une, fondée sur Saint-Pierre? Je vous préviens, je vais donner parfois des références bibliques. Vous les aurez sur la cassette, pour ceux qui enregistrent, pour ceux qui achètent des idées cassettes. Alors, vous pourrez les vérifier dans la Bible. Pour annoncer le royaume des cieux qu'il vient d'inaugurer, le Jésus y emploie un certain nombre de paraboles, on le sait. Hein? Les paraboles qui présentent le royaume, là, comme je vous ai dit, comme une réalité appelé à se développer lentement, puis c'est pas une irruption brusque là, du ciel sur la terre. Exemple, il dit que le royaume est un grain de sénévé, c'est un grain de moutarde, comme une graine de poivre, si vous voulez, mais un grain de moutarde. Donc, un grain de sénévé appelé à devenir la plus grande des plantes potagères, dans Matthieu 13, 32. Jésus dit aussi que c'est comme un champ dans lequel il faut laisser pousser simultanément, ensemble, le bon grain et l'ivraie jusqu'à la moisson. Donc, dans l'Église, il y a des mauvaises choses. Alors, il ne faut pas s'en scandaliser. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui disent « Ah, l'Église, ça ne peut pas être l'Église, il y a ci, il y a ça. » Mais oui, mais c'est comme ça. Jésus nous a prévenus. Il fallait laisser pousser le bon grain puis l'ivraie jusqu'à la moisson finale. Alors, ça c'est dans Matthieu 13, verset 30. Et puis, il dit aussi que l'Église, en fait, c'est comme un filet de pêche qui ramène sur le rivage avec de bonnes choses des objets qui ne valent rien. Toutes ces comparaisons supposent une société qui est évidemment pas parfaite. On n'est pas encore au paradis. Et les bons et les mauvais s'y trouvent très bien mêlés. Et le tri ne se fera qu'à la fin du monde. Quand on a compris ça, puis qu'on cesse de se faire des ulcères d'estomac en pensant à l'Église, on risque de tomber en amour avec l'Église, alors. Oui, malgré toutes les livrets, comme on dit, les mauvaises herbes qu'il y a dedans. Laimons-nous assez, cette Église. Pas assez loin de là, hein. Et qu'est-ce qu'on attend pour comprendre les paroles de notre Seigneur? D'ailleurs, Jésus se présente lui-même comme le bon pasteur, hein, qui veut rassembler ses disciples en un seul troupeau. Il le dit, un seul troupeau. C'est dans Saint Jean, chapitre 10, verset 16. Vous vous souvenez, il envoie ses disciples en mission, puis il leur donne des consignes précises sur la façon dont ils devront se comporter. Hein. Si l'on vous pourchasse dans telle ville, fuyez dans telle autre, et si l'on vous pourchasse dans celle-là, fuyez dans une troisième. Hein. C'est dans Matthieu, chapitre 10. Il dit... Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il y a quelque chose là-dedans. Moi aussi je vous envoie. Comme quelque chose, comme l'établissement d'une église, là. Jésus donne même des conseils sur la façon de régler les conflits intérieurs. On ne règle pas les conflits à l'extérieur, mais à l'intérieur de cette communauté future. Il dit, si ton frère vient à pécher, va le trouver, reprends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, pas encore avec toi, un ou deux frères, pour que toute affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins, des membres de l'Église, quoi. Que s'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté, et s'il refuse d'écouter même la communauté, bien qu'il soit pour toi comme païen et publicain, ça peut sembler étrange, mais il faut bien comprendre, hein? Ça ne brise pas l'unité, ça. Et Jésus promet surtout à ses disciples, c'est très important, qu'ils seront revêtus de la force d'en haut pour être des témoins, ses témoins, dans le monde. Luc, chapitre 24, verset 49. Lorsqu'on vous livrera, ça c'est dans Matthieu 10, 19. Lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, dit-il, car c'est pas vous qui parlerez. Mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Hein? C'est très important sans ça. Alors, toutes ces paroles, me semble, supposent bel et bien, chez le Maître, chez Jésus, la conscience que ses disciples auront à vivre un long moment sur terre. C'est pas, ça dure pas quelques années, c'est pour des siècles, avant qu'ils ne reviennent inaugurer définitivement le royaume des cieux. Il me semble que c'est clair. Bon, je procéderai tout à l'heure, après avoir entendu un peu de musique, la réponse, la question, Jésus a-t-il voulu une église hiérarchique? Alors, on vient de voir que Jésus a voulu une église visible. Hein? Il a comparé l'église à des grains de sinuvée, un champ dans lequel peut pousser de l'ivraie, puis des bonnes choses. Et puis, il envoie ses disciples en mission. Il leur dit de faire quelque chose pour établir ce royaume, c'est-à-dire cette vérité, cet enseignement, savoir que Dieu est notre Père, que nous sommes aimés, etc. Puis, il leur donne des conseils comment régler les affaires entre eux pour pas trop se disputer, puis s'apprendre à s'aimer. Puis, il leur promet surtout l'Esprit Saint, hein, pour former un groupe solide. Donc, une église visible, à mon avis. Alors, Jésus a-t-il voulu une église hiérarchique? On peut parler du choix des 12 apôtres par Jésus. Le groupe des apôtres occupe une très grande place dans les évangiles. Et Jésus passe toute une nuit en prière avant de choisir 12 apôtres parmi ses disciples. Vous trouvez ça dans Saint-Luc, chapitre 6, verset 13. C'est un chiffre éminemment symbolique, 12. Bon, je m'illusionne pas là-dessus. Ça manifeste l'intention de Jésus de rassembler autour d'eux les membres du nouveau peuple d'Israël. Il les désigne d'ailleurs avant même d'accomplir à Cana son premier miracle. Donc avant de se manifester, il les désigne déjà. C'est assez dire l'importance qu'il accorde à la constitution, si on peut dire, du noyau de sa future Église qui va être hiérarchique. Oui, allez voir. Et puis Jésus réserve à ses disciples un enseignement qui ne donne pas à la foule. C'est un premier signe de la hiérarchie, ça. On trouve souvent dans les évangiles les expressions telles que « il disait aux foules », puis « il disait aux disciples », puis ailleurs « appelant la foule en même temps que les disciples », etc. Vous trouvez ça dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, etc. Je vous donne pas toutes les références, c'est trop long. Dans la première partie de son ministère, en particulier en Galilée, là, Jésus s'adresse surtout aux foules. Bon, à l'Église entière, si on peut dire. Ensuite, quand les foules se détachent petit à petit de lui, il passe le plus clair de son temps à former ses apôtres. Il consacre les 12 derniers mois de sa vie à les enseigner, c'est-à-dire qu'il a voulu une Église hiérarchique, me semble. Je continue. Il les amène dans une barque vers un lieu désert à l'écart. Hein, c'est dans Matthieu, dans Marc, chapitre 6, verset 32. Ça. Il leur demande de donner à manger à la foule qui les a rejoints dans le désert. Puis il leur fait distribuer, là, c'est la multiplication des pains, il leur fait distribuer le pain, puis il les fait remonter dans la barque. Puis là, il les retrouve sur le lac. Et alors, écoutez bien, il reconnaît devant eux qu'il est le Messie, mais il leur enjoint de ne le dire à personne, c'est un secret entre eux. Voyez ça dans Marc, chapitre 8, verset 30. Il leur annonce qu'il doit beaucoup souffrir. Il va être rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes. C'est le verset suivant. Puis à leur demande, il leur enseigne le Notre Père. Hein? Montre-nous à prier. En Saint-Luc, chapitre 11. Il leur annonce ensuite les malheurs qui doivent s'abattre sur Jérusalem. C'est dans Marc au chapitre 13. Puis il célèbre au milieu d'eux son dernier repas, Marc chapitre 14, avant de partir avec eux au jardin de Gethsémani. C'est avec eux, donc, que ce qu'il y a de plus important se passe. Puis il leur avait dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Quelques jours plus tard, ils sont les témoins privilégiés de sa résurrection. Ils doivent aller annoncer cette bonne nouvelle de par le monde. Toujours eux qui doivent annoncer tout ça. Ce que je veux dire, c'est que par l'importance qu'il leur accorde, par la formation qu'il leur donne, me semble que le Christ indique clairement le rôle que les 12 apôtres doivent jouer dans sa future Église. D'ailleurs, pensez-y. Les actes des apôtres, la première histoire de l'Église, si vous voulez, qui suit les évangiles dans votre Nouveau Testament, là, nous montre la place essentielle qu'ils occupent dans la naissance et le développement de l'Église primitive. Ce sont les premiers évêques, en somme, les 12 premiers. C'est entre leurs mains, dans leur cœur, qu'est le pouvoir de Jésus. C'est eux qui font le choix des presbytres, c'est-à-dire des prêtres, et des épiscopes, c'est-à-dire des autres évêques. Quand les apôtres fondent de nouvelles communautés, ils ont à cœur de placer à leur tête un collège de presbytes, c'est-à-dire un groupe de prêtres, quoi. Et les épiscopes, le mot épiscope, ça veut dire surveillant. Ce titre, on le rencontre dans le montre grec, peut avoir une origine sémite, peut-être. Puis le mot presbytre veut dire ancien. Même s'ils ont 23, 24 ans, ils sont anciens dans le sens qu'ils ont un certain pouvoir. Alors, les épiscopes semblent, dans certains textes, avoir le même rôle que les presbytres. On voit ça dans les Actes, au chapitre 20, etc. Cependant, leur titre désigne plutôt une fonction, un office, tandis que celui de presbytre fait penser à un état, une dignité. Il se peut que les épiscopes aient été choisis dans le collège des presbytres pour remplir certaines charges actives. On voit ça dans la première épître à Timothée, au chapitre 5. Peut-être, d'ailleurs, à tour de rôle. Et les presbytres et les épiscopes chrétiens ne sont pas seulement chargés d'administration temporelle, mais ils sont chargés surtout d'enseignement. On trouve ça à plusieurs endroits. Et de gouvernement aussi. Ils sont établis par les apôtres, on voit ça dans les Actes, au chapitre 14, verset 23. Puis le représentant ils sont choisis par les apôtres ou leurs représentants par imposition des mains. Où est-ce que c'est ce par imposition des mains? C'est dans la première à Timothée, première épître, chapitre 5, verset 22. Ils ont un pouvoir d'origine divine. Ça c'est dans Actes, chapitre 20, verset 28. Et charismatique, dans le beau et plein sens du terme charismatique, dans la première aux Corinthiens, chapitre 12, verset 28. On peut se demander comment s'est fait le passage de ces épiscopes presbytres à l'évêque, chef unique du collège des prêtres, tel qu'il apparaît nettement chez saint Ignace d'Antioche en l'an 110. Ça a dû se faire par la transmission à un seul épiscope dans chaque communauté des pouvoirs qu'exerçaient auparavant sur plusieurs communautés les apôtres eux-mêmes, puis leurs représentants tels que Tite et Timothée. Désormais, il me semble qu'on voit clairement la trilogie, là, je vais passer rapidement sur des choses. Évêque, prêtre et diacre. Donc, dès ses origines, l'Église apparaît comme un ensemble de communautés hiérarchisées, évêque, prêtre et diacre, ayant à leur tête des chefs établis par les apôtres ou leurs représentants. Bon, ces pasteurs ne doivent pas oublier l'esprit de service que Jésus recommandait à ses apôtres. Ça, c'est dans Saint Luc, au chapitre 22, verset 25-26. Ils sont pas on les appelle des pontifs, parfois, des affaires comme ça. Ce sont des serviteurs. Jésus dit, « Les rois des nations dominent sur elles, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. » Bon, ça, c'est pour les gouvernement civil. Mais pour vous, il n'en va pas ainsi. Et c'est très beau ce que Jésus leur dit. Il dit au contraire que le plus grand parmi vous se comporte comme le plus jeune et celui qui gouverne comme celui qui sert. Qui sert? Un serviteur. Et le pape, son plus beau titre, c'est serviteur des serviteurs de Dieu. Mais ils ne doivent pas quand même perdre de vue la remarque solennelle de saint Paul à Timothée. Écoutez bien. Quand il dit, et c'est très beau, hein, proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte, avec une patience inlassable et le souci d'instruire. Car un temps viendra où les hommes, écoutez bien, c'est aujourd'hui ça, ça a toujours été, mais c'est particulièrement aujourd'hui, car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire, au gré de leur passion et l'oreille leur démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité, et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables, vers les sectes, quoi, vers tout ce que vous voudrez. C'est dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 4, versets 2 à 4. Avec douceur, donc, le serviteur du Seigneur doit reprendre les enfants. C'est toujours dans la même épître. Faut reprendre doucement les témoins de Jéhovah qui sonnent à nos portes. Faut pas les envoyer promener méchamment. En somme, Jésus a fondé une église, moi, que j'aime. Et je tiens à aimer l'église, mais je me garde du cléricalisme qui me fatigue. Je pense à Madeleine Delbrel qui disait le mot « église ». Je voudrais l'écrire à toutes les lignes autant de fois que j'écris le mot « Dieu ». Et je pense aussi au père de Lubac. Ça, c'est dans un livre qui s'appelle « L'abbé Pierre interrogé par Bernard Chevalier au Centurion ». Paru en 1979, c'est le père de Lubac qui est devenu le cardinal de Lubac. Je vous ai parlé de lui dans mon émission du 4 septembre 1996. Il écrivait à l'abbé Pierre la veille de son ordination sacerdotale, « Demain, quand vous serez étendu sur les dalles de la chapelle, ne faites qu'une seule prière à l'Esprit-Saint. Demandez-lui qu'il vous accorde l'anticléricalisme des saints. » L'anticléricalisme des saints. Alors, il y a de la dernière question. Jésus a-t-il voulu une église, une, fondée sur Pierre? Évidemment, comme vous me connaissez, je vais répondre oui. Mais, je vais être honnête, et j'ai comme des millions de catholiques, et des dizaines de millions de catholiques, et des centaines de millions de catholiques, des raisons de répondre oui. D'accord, la primauté de Pierre pose une question difficile. La place très importante tenue par l'évêque de Rome dans l'organisation de l'Église catholique, est-ce qu'elle correspond vraiment à la pensée du Christ? C'est là tout le problème, et j'essaierai tout à l'heure de répondre, mais je tiens à vous dire que j'aimerais, avant de commencer ça tout à l'heure, vous dire un mot d'un théologien protestant allemand important, Jean-Jacques von Almen, professeur à l'université de Neuchâtel. Ensuite, qui reconnaît que la charge confiée à Pierre par le Christ, être pasteur de tout le troupeau ou de toute la chrétienté, ne pouvait disparaître avec la mort de l'apôtre. Il écrit « Les trois fonctions de Saint-Pierre ne peuvent pas prendre fin avec la mort de Pierre, puisqu'après sa mort, il reste une Église à protéger, première fonction, des collègues dans le ministère à fortifier, deuxième fonction, et le troupeau à paître, troisième fonction. » Cruciaux, à savoir la troisième question, ou sous-question, Jésus a-t-il voulu une Église une, fondée sur Saint-Pierre? C'est incontestable. Quand on pense à la place exceptionnelle de Pierre dans les Évangiles, il est incontestable que Pierre occupe la place de premier plan dans les récits qu'on trouve dans les Évangiles. Chez Matthieu, la marche sur les eaux montre bien Pierre plus ardent que les autres à suivre Jésus, tout en ayant besoin d'être assuré. Vous savez, il coule à un moment donné. Il a besoin d'une foi plus forte, parce que sa foi est hésitante. Hein? C'est au chapitre 14 chez Saint Matthieu, ça. Vers la fin du chapitre. Il y a l'épisode du didrachme aussi, ça le met en valeur. Vous savez, les questions de l'impôt à payer, vous vous souvenez. Bon, c'est trop long à raconter, c'est au Saint Matthieu, chapitre 17. Le chapitre 16, ça c'est important. Il nous montre les circonstances du surnom que Pierre a reçu de Jésus. Jésus lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Il est le premier à confesser sa foi en ce qu'on appelle la messianité de Jésus, comme quoi Jésus est l'envoyé tant attendu, qui va transformer l'univers, qui va être au cœur de l'histoire. À preuve, c'est qu'on célèbre chaque année, sur nos calendriers, son anniversaire en mettant l'année 1997, ça veut dire c'est le 1997e anniversaire de Jésus. Pierre reçoit la promesse d'avoir toujours une foi solide comme le roc. Il reçoit la promesse d'être lui-même la pierre sur laquelle sera construite l'Église. Évidemment, seul Jésus est la pierre par excellence, comme il est le seul à être la vraie lumière, le vrai pasteur, la vraie vigne, c'est d'accord. D'accord. Chez Saint-Luc, nous voyons comment Pierre devient pêcheur d'hommes après la première pêche miraculeuse, au chapitre 5. Et une parole du chapitre 24, verset 34, semble lui attribuer la première apparition de Jésus ressuscité, selon une tradition qu'on retrouve chez Saint-Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 15. Je m'excuse de donner toutes les références, et pour faciliter, ceux qui enregistrent sur cassette vont pouvoir tout vérifier ça s'ils veulent. Pierre y est également assuré que sa foi ne défaillera pas et qu'il devra, après sa chute, vous vous souvenez, affermir ses frères. Ici encore, écoutez-moi bien, la primauté de Pierre n'est pas due à l'excellence de son amour, non, non, elle est un don de Dieu, la primauté. Elle est liée à la prière de Jésus lui-même. Elle est ordonnée, pourquoi qu'elle est établie, c'est pour fortifier la foi de ses frères, de tous les fidèles, de nous. Chez saint Jean, Pierre professe sa foi à Capharnaüm, où est apparu le christianisme, si on peut dire. Après le discours sur le pain de vie, ce beau discours dans saint Jean, chapitre 6, verset 68, là. Il entre le premier dans le tombeau du ressuscité, chapitre 20. Il reçoit la charge du troupeau après avoir proclamé trois fois son amour pour le Christ. Chapitre 21, c'est si beau. C'est pas j'ai le temps de tout citer. Mais je vous donne quelques références. J'irai vérifier. Quant aux actes des apôtres, c'est-à-dire, comme toujours je vous le dis, la première histoire de l'Église, ils ne cessent de nous présenter la place éminente de Pierre dans les débuts de l'Église. Rappelez-vous l'élection de Matthias, la Pentecôte, la guérison du boiteux, les comparutions devant le Sanhédrin, le châtiment d'Ananie et de Saphir, la conversion du centurion Corneille. Il faut que je procède vite parce que l'émission n'est pas bien longue. Je pourrais vous parler de tout ça. Ici, Saint-Paul s'est permis d'adresser à Saint-Pierre une correction fraternelle, comme on le voit dans l'Épître aux Galates. Il le considère néanmoins comme le premier témoin de Jésus ressuscité. Ça, c'est dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, verset 5. Il le considère aussi comme la plus haute autorité à laquelle il peut faire appel, toujours dans la première aux Corinthiens, chapitre 9, verset 5. Et c'est d'abord pour voir Képhas, c'est-à-dire Pierre, qu'il est monté à Jérusalem après sa conversion. Voyez ça dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, verset 18. C'est pourquoi, à mon avis, on ne peut que reconnaître l'importance de l'Église de Rome sans vouloir blesser ceux qui ne pensent pas comme ça. Je ne veux pas blesser personne, mais je me permets d'affirmer ma foi et la foi de l'Église catholique. Dès le premier siècle, l'Église de Rome jouit d'un grand prestige au milieu des autres églises. Vers l'an 95, par exemple, l'évêque Clément de Rome, le pape, si vous voulez, l'évêque Clément de Rome, intervient auprès de l'Église de Corinthe, en Grèce. Pourquoi? Parce qu'elle est agitée, cette Église, par des troubles importants, et dans une lettre qu'il leur envoie, il parle avec une autorité frappante. 15 ans plus tard, en l'an 110, alors qu'il est en route vers la capitale de l'Empire, où il doit être livré aux bêtes de cirque, l'évêque Saint-Ignace d'Antioche, dont je vous ai déjà parlé, Antioche est en Turquie d'aujourd'hui, écrit ainsi à l'évêque de Rome, pas à la porte, il s'adresse à lui, « À l'Église qui préside dans le lieu de la région des Romains, digne de Dieu, digne d'honneur, digne de bénédiction, digne de louange, digne d'être exaucée, digne en chasteté, et... » Il ajoute « présidente de la fraternité selon la loi du Christ ». C'est un ton qu'on ne trouve absolument pas dans aucune autre de ses lettres aux autres églises qu'il traverse. Et pourtant, comment ces évêques semblent bien peu de choses quand on les reconsidère, dont des martyrs obscurs, dont la liste nous est connue par saint Irénée, le second évêque de Lyon, qui est mort en l'an 200. Il était évêque pendant près de 25 ans, lui. Alors, on connaît la liste. Lin, Anaclète, Clément, Évariste, Alexandre, Sixte, Hygin, Télesphore, martyr sous l'empereur Adrien, Pie, Anicète, qui a reçu Polycarpe, saint Polycarpe, Sautère, Éleuthère, qui était un ami d'Irénée. Bon, on les connaît à peine. Cette discrétion, si on peut dire, de ses premiers papes rend d'autant plus saisissante la place qui est donnée à Pierre dans les livres du Nouveau Testament. Elle prouve que cette place n'a pas été inventée par les premières communautés chrétiennes ou par les premiers évêques de Rome, mais qu'elle est vraiment le reflet de ce qui s'est passé du temps de Jésus. Et on peut ajouter que fondée par Pierre et Paul, arrosée par leur sang, l'Église de Rome apparaît de plus en plus comme l'Église, écoutez bien, avec laquelle doit être d'accord toute Église, c'est-à-dire tous les fidèles répandus dans l'univers. C'est en elle, dit saint Irénée vers l'an 183, 3 ans après être devenu évêque, c'est en elle que les fidèles de tous les pays ont conservé la tradition apostolique. Je répète, c'est trop beau. C'est en elle, cette Église de Rome, que les fidèles de tous les pays ont conservé la tradition apostolique. Puis dans le même texte, l'évêque de Lyon parle de la haute prééminence de l'Église de Rome. Mais on ne sépare jamais les deux apôtres, hein, quand même, Pierre et Paul, qui sont intimement associés. On considère qu'ensemble, ils ont fondé l'Église de Rome. Comme, vous vous souvenez, Romulus et Rémus ont fondé, 700 ans plus tôt, la ville de Rome. Il est d'ailleurs remarquable que la date du 29 juin, le choisi pour leur fête, saviez-vous ça, c'était l'anniversaire de la fondation de Rome par Romulus et Rémus. Et dans ses actes les plus solennels, le siège romain tient à se réclamer de l'autorité de Pierre et de Paul. C'est ce qu'a fait au siècle dernier Pie IX pour la définition du dogme de l'Immaculée Conception, puis au milieu de notre siècle aussi Pie XII pour le dogme de l'Assomption. L'apôtre Pierre est tellement censé, d'ailleurs, veiller encore sur l'Église romaine, que l'évêque de Rome aime s'appeler le vicaire de Pierre. Une expression beaucoup plus ancienne que successeur de Pierre, ou que vicaire du Christ, saviez-vous ça, hein, encore une fois? Même dans les mois d'interrègne entre deux papes, savez-vous que l'Église de Rome, sans pape, là, quand il n'y a pas de pape, pas encore élu, exerce parfois sa fonction de veilleur vis-à-vis des autres églises. C'est comme ça que vers l'an 250, le siège de Rome était vacant. Alors ce sont les clercs, les prêtres de Rome qui se permettent d'intervenir près de l'église de Carthage, en Afrique, là, près de Tunis. Elle est en crise, cette église, puis ils y mettent de l'ordre. Bon, j'aborde maintenant, toujours avec l'abbé Découvemont, dont je vous dis que je m'inspire sur cette dure question, le problème du patriarche d'Occident et des patriarches d'Orient. Mais je veux être clair et respectueux à la fois à l'égard des orthodoxes, mais je serai bref. La primauté de l'évêque de Rome, sur tous les autres évêques, ça supprime pas le rôle que continuent à jouer pendant des siècles les patriarches d'Alexandrie en Égypte et d'Antioche en Turquie d'aujourd'hui. Le concile de Nicée qui s'est tenu dans la Turquie d'aujourd'hui en 325 reconnaît comme une ancienne coutume l'existence d'un tel premier, un protos, comme on dit, à Alexandrie, à Antioche et à Rome. Autrement dit, pendant des siècles, on prend bien soin de distinguer, écoutez bien, c'est très important, la primauté de l'évêque de Rome sur son diocèse à lui, sa primauté sur le patriarcat d'Occident, bon, ça va, et sa primauté sur l'ensemble des églises, on reconnaît ça. Il suffit de voir comment Grégoire le Grand, pape de 590 à 604, répond au patriarche d'Alexandrie en Égypte qui l'a salué du titre d'évêque universel. Et Grégoire le Grand lui répond « Ce qui m'honore en vérité, c'est lorsque, à chacun, on ne refuse pas l'honneur qui lui revient. » Il n'y a pas d'orgueil là-dedans, il y a simplement une conception de ce qu'il est, d'après la parole de Jésus à Saint-Pierre. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Puis il y a aussi la question longtemps débattue de l'affirmation du pouvoir du pape face au pouvoir des princes, disons des rois, des empereurs ou des chefs d'État, quoi. 5 siècles après le pape de Saint Grégoire le Grand, un autre Grégoire, Grégoire VII, va tenir un tout autre langage. Lui, il va pas de même ordre. Résolu à prendre tous les moyens pour parvenir à la réforme morale de son clergé, il décide de soustraire la nomination des évêques puis des abbés de monastère à la fantaisie des princes, comme on dit. En 27 propositions brèves, solennelles, il affirme haut et clair les prérogatives du pape de Rome. Et ce sont les fameux Dictatus Papae. C'est daté de 1075. Le style en est percutant. C'est un style, disons, d'un moine, d'un saint moine de l'abbaye de Cluny. Il venait de l'abbaye de Cluny, lui. Qui est décidé puis qui est convaincu. Il dit, le pape est le seul homme dont tous les princes baisent les pieds. Comme vous voyez, il va pas de même ordre. Moi, j'aime pas ça, mais en tous les cas. Faut se mettre dans la conception du temps. Bon. Pas facile. Il ajoute, il lui est permis de déposer les empereurs. Et là, là. Il lui est permis, quand la nécessité l'exige, de transférer un évêque d'un siège à l'autre. Vous pensez peut-être qu'il est orgueilleux. Moi, je dirais non. Compte tenu de l'époque, il n'y a pas d'orgueil dans tout cela, mais la volonté bien arrêtée de ne plus céder aux caprices des princes, c'est ce qu'il veut. Bon, vous direz que je suis... j'ai un peu du parti pris, mais je pense qu'il faut se mettre dans l'esprit du temps. C'est le roi Henri IV d'Allemagne qui va plier. Vous vous souvenez de l'événement, hein? 3 jours durant la porte du château de Canossa où Grégoire VII s'est réfugié, le roi, pieds nus dans la neige, implore le pardon du pape. Hein? Pendant 3 jours, oui. Puis au début du 14e siècle, ce sont les visites dominatrices du roi de France, Philippe le Bel, qui vont susciter par réaction une nouvelle affirmation, là, très vigoureuse du pouvoir papal. Hein? Et puis, je vous fais grâce de tout ça. Mais désormais, le pape va s'appeler le vicaire de Dieu. Expression qu'on trouve pour la première fois chez le pape Innocent IV, ça c'est en 1254, et qui sera considéré par le cardinal Bellarmine plus tard, là, au moment de la contre-réforme, comme la meilleure définition du pouvoir papal, le vicaire de Dieu, vicaire du Christ. On comprend alors que les artistes du 15e siècle se sont mis à représenter Dieu le Père avec la tiare sur la tête, vous savez, les 3 couronnes, puis assis sur un trône de pape. Quelle horreur! Mettre Dieu comme ça. Pff, à mon avis, on est loin du Dieu de l'Évangile, hein, le Père de l'enfant prodigue. Il y a eu bien des abus dans l'Église. Ces excès dans la façon de concevoir Dieu se retrouvent chez beaucoup de chrétiens du 19e siècle, qui, sous le règne de Pie IX, ont conçu l'Église comme une pyramide. Toute initiative doit venir d'en haut. Puis, puisque le pouvoir temporel du pape est menacé, ben on éprouve le besoin là, d'aller se battre pour lui. C'est toutes des exagérations. Moi, je m'excuse de blesser les bonnes âmes en disant ces choses-là. Hein. C'est l'époque aussi où Don Guéranger, l'abbé de Solesmes, fait une campagne pour l'universalisation de la liturgie romaine, la disparition des rites régionaux, et tout ça mène à une espèce de concentration à Rome. Mais quoi qu'on pense, le Concile Vatican I a évité ces excès. Je vous le montrer brièvement tout à l'heure. Alors, je vous ai dit que quoi qu'on pense au Concile Vatican I, qu'on lui fait beaucoup de reproches des fois sur la... parce qu'ils ont défini l'infaillibilité du pape, les pères conciliaires, il y a la constitution Pastor Eternus, le pasteur éternel. Cette constitution rappelle qu'il faut comprendre le ministère du pape à la lumière de l'antique, disent-ils, l'antique et constante foi de l'Église universelle. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Traduite dans les déclarations des conciles écuméniques qui ont précédé. Et cette constitution, ce texte important qui émane du Concile Vatican I, parle de l'Église romaine et de sa primauté comme ce qui explique la primauté du pape, puis affirme que le pouvoir du souverain pontife ne fait nullement obstacle au pouvoir de juridiction des évêques. Au pouvoir de juridiction des évêques. Parce qu'il y a toujours eu des gens pour dire que quand le pape a décidé que les évêques se taisent tous, c'est pas si facile que ça. Les catéchistes de la première moitié du 20e siècle en sont souvent inspirés par une théologie ultramontaine, c'est-à-dire une théologie centralisatrice, unificatrice à l'excès. D'ailleurs, dans ces catéchismes, on pouvait y apprendre qu'un évêque, c'est ce qu'on disait, un évêque, c'est un prêtre spécialement consacré pour tenir parmi nous la place de notre Saint-Père le Pape. Me semble que c'est un peu fort. Au moment où Jean XXIII annonce l'ouverture du Vatican II, là, il y a une trentaine d'années, le correspondant du journal La Croix, à Rome, se demande à quoi peut bien servir un concile après la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale. Faut dire que le journal La Croix a bien changé depuis les années 60. Je ne dis pas que c'est toujours pour le mieux, mais c'est souvent pour le mieux. Et venons-en au Concile Vatican II. La Constitution Lumen Gentium de Vatican II ne contredit pas la Constitution dont je viens de vous parler, le Pastor Eternus de Vatican I. Mais ça la reprend dans une perspective nouvelle. Et là, le schème n'est plus pyramidal. L'Église n'est plus une pyramide. On rappelle que le Christ a fondé son Église non sur une... Pierre tout seul, mais sur les apôtres ayant Pierre à leur tête. Le fondé sur les apôtres ayant Pierre à leur tête. Très important. Et l'Église est présentée comme la communion de toutes les églises locales. C'est bien dit dans le décret sur la charge des évêques, un diocèse lié à son pasteur et par lui rassemblé dans l'Esprit Saint grâce à l'Évangile et à l'Eucharistie constitue une Église particulière en laquelle l'Église du Christ, une sainte, catholique et apostolique, est vraiment présente et agissante. Et la consécration épiscopale est un sacrement, alors que l'élection du pape ne l'est pas, saviez-vous ça? Et que son intronisation ne lui confère aucun caractère indélébile. Hein? Lorsqu'un pape démissionne, il cesse d'être pape. Il y en a un qui a démissionné, c'est Célestin V en 1294. Autrement dit, le Concile Vatican II a bien mis en valeur que les évêques ne sont nullement les ministres ou les préfets du pape auprès de leur diocèse. Écoutez bien, ils en sont vraiment les chefs et les pères. Mais c'est ensemble, unis autour du pape, qu'ils doivent se sentir responsables de toute l'Église. La nouvelle institution des synodes, d'ailleurs, est dans la ligne de cette collégialité de tous les évêques, co-responsables de l'évangélisation du monde, pour faire connaître et aimer Jésus-Christ partout. Il semble bien d'ailleurs que c'est en remettant en valeur ce rôle de l'évêque de Rome, un rôle d'animateur favorisant au maximum les initiatives des églises locales et leurs échanges mutuels, qu'on va pouvoir permettre, me semble, à nos frères séparés, de reconnaître que le pape doit continuer à jouer dans l'Église aujourd'hui le rôle tenu par Pierre dans la toute première communauté chrétienne. L'unité tant désirée par Dieu lui-même est à ce prix. Il me semble que c'est un petit prix à payer. Depuis une quarantaine d'années, depuis notamment l'entrée massive des évêques d'Afrique, d'Asie et d'Amérique dans le Collège des cardinaux, à la Curie romaine, l'administration de l'Église, mais l'Église catholique apparaît davantage comme une Église universelle. Et l'élection d'un pape polonais, Jean-Paul II, a marqué une nouvelle étape dans cette direction, mais il va sans dire que les membres de l'Église doivent s'ouvrir à beaucoup d'autres grâces de conversion. Oui, de conversion, toujours la conversion. pour montrer au monde un visage un peu plus ressemblant du Christ qu'elle annonce. Bien des progrès restent à faire pour que tous trouvent dans l'Église catholique la place qui leur revient. Je pense aux pauvres, aux laïcs, aux femmes, aux jeunes, etc. Et là, le visage du Christ apparaîtra plus lumineux dans tout son amour. J'aime bien cette parole du cardinal Journet. L'Église n'est pas d'abord au Vatican, elle est dans le cœur des saints. J'achève, mais je m'aperçois que je n'ai pas évoqué les aspects de l'Église que les chrétiens trouvent les plus merveilleux. Elle est l'épouse que le Christ a lavée dans son sang, dans son âme, brûlante d'amour, pour pouvoir l'aimer d'une tendresse vraiment nuptiale. Elle est son propre corps à travers lequel il répand son esprit. Je vous en ai un peu glissé un mot au tout début. Pourquoi? Ben, c'est afin que tous ses membres puissent vivre de sa vie. Nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Si on veut bien y correspondre. L'Église est ce peuple de prêtres, de prophètes et de rois qui l'appelle à être dans le monde les adorateurs du Père, les messagers de sa parole, les artisans de son royaume. C'est un langage difficile, mais c'est un langage qui dit tout. Si je n'en ai pas parlé, ce n'est pas par oubli ou dédain du Concile Vatican II qui a remis en valeur ce mystère de l'Église, tout en nous demandant de l'approfondir puis d'en vivre. Mais en une heure, qu'est-ce qu'on peut dire? Je voulais seulement montrer que dans ces institutions essentielles, l'Église est née d'une volonté explicite de Jésus. J'espère vous avoir convaincu, malgré toutes les idées qui circulent un peu partout. En terminant, je vous lis un beau texte de Georges Bernanos, intitulé « Martin Luther ». On trouve ça dans le livre d'Albert Béguin, « Bernanos par lui-même », paru au Seuil en 1954. Ça se trouve encore, je crois. L'Église n'a pas besoin de réformateurs, mais de saints. On ne réforme pas l'Église en souffrant pour elle. On ne réforme pas l'Église visible qu'en souffrant pour l'Église invisible. Oui, on ne réforme l'Église qu'en souffrant pour elle. On ne réforme les vices de l'Église qu'en prodiguant l'exemple de ses vertus les plus héroïques. Il est possible que saint François d'Assise n'ait pas été moins révolté que Luther par la débauche des prélats. Il est même certain qu'il en a plus cruellement souffert que Luther, car la nature de François d'Assise était bien différente de celle de Luther. Mais il n'a pas défié l'iniquité, il n'a pas tenté de lui faire front, il s'est jeté dans la pauvreté, il s'y est enfoncé le plus avant qu'il a pu, avec les siens, dans la source de toute rémission et de toute pureté. Au lieu d'essayer d'arracher à l'Église les biens mal acquis, il l'a comblé de trésors invisibles. Et sous la douce main de ce mendiant, qui est François d'Assise, le tas d'or et de luxure s'est mis à fleurir comme une haie d'avril. Comme vous savez, c'est les haies, c'est si beau en avril quand ça fleurit. L'Église n'a pas besoin de réformateurs, mais de saints, dit Bernanos. Oui, c'est comme ça. La rencontre de Jésus... C'est toi, Père, qui l'a voulu dans un dessein d'amour. Et c'est toi qui l'a pensé et qui l'a désiré, qui l'a réalisé. Je crois que c'est réalisé dans l'Église.